Salut, moi c'est Niki.
Moi c'est Bi.
Bienvenue dans le podcast Madame Attrape ton cœur.
Une conversation à cœur ouvert entre deux copines d'origine camerounaise et bissau-guinéenne
qui ont quitté leur vie parisienne pour s'installer à Abidjan.
Dans ce podcast, on vous parlera entre autres d'identité, de féminisme, de carrière professionnelle,
d'expatriation, de santé mentale, d'art et de culture.
Hello Niki, comment ça va?
Ça va et toi?
Ça va, hein? Quelles sont les nouvelles?
Bah écoute, tu sais, l'actualité.
L'actualité est pas bonne.
Voilà, donc c'est les nouvelles, on va pas... Enfin, moi personnellement, je vais pas rentrer dans ces détails-là parce que j'ai envie de penser à autre chose. On est entouré que de ça, donc voilà. Moi, les nouvelles, pour moi, c'est... J'ai regardé le nouveau spectacle de Farid.
Ah, Hexagone.
Ouais, Hexagone. Et je me suis dit, mais putain, mais attends, mais c'est la même chose. Enfin, c'est notre épisode d'identité, quoi. C'est ça. Et je me suis retrouvée dans plein de choses qu'il disait. Et c'est là où ça me... Et c'est là où je me suis dit qu'en fait, le sentiment qu'on exprimait, qu'on exposait dans cet épisode-là, il est partagé par plein de Nord de France. Et ça, je ne le savais pas. Tu vois, cet épisode m'a permis de savoir ça. Bon, voilà, c'est du Farid. Il est toujours aussi drôle. C'est agréable. Donc voilà.
Ah, c'est un beau spectacle, je l'ai vu, j'ai bien ri. Ouais, et en fait, il allait au-delà de juste les questions identitaires en France. C'était vraiment commenté en tant que Français à l'étranger.
Ouais, mais c'est ce qu'on fait au final avec ce podcast. Donc.
Et moi, ça m'a bien parlé.
Ouais, ça me fait rigoler. Et on profite de cet épisode aussi pour dire merci.
Un infime merci à vous tous.
On est à... Bon, ça a l'air de rien comme ça, mais pour nous, c'est un truc de ouf. On a plus de 100 followers sur Insta.
Ah, les feedbacks étaient trop intéressants.
Ouais, hyper positifs et tout, et donc on voudrait vous dire merci pour ça. Donc voilà.
Un grand merci, beaucoup d'amour.
Ouais.
Et on espère continuer comme ça avec vous.
Inch'Allah.
Démarrons ce quatrième épisode qui est direction la Côte d'Ivoire, Fast Life.
Pourquoi Fast Life?
Franchement, déjà quand j'entends que Fast Life, j'ai envie de danser. Tu vois, de la mer, ta.
Ouais. Bon, on va vous expliquer pourquoi Fast Life. En fait, cet épisode sera un peu différent des autres, on va dire.
Ouais.
Au lieu d'avoir une conversation, voilà, on va se poser quelques questions sur ce qu'on peut... préparé pour un séjour en Côte d'Ivoire.
Du coup, je pense, avant de rentrer dans les questions même, peut-être expliquer pourquoi on est venu en Côte d'Ivoire, rapidement.
Ouais. Je suis venue ici parce que j'ai eu une opportunité de travail. À la base, je devais faire 6 mois. Ça s'est transformé en 7 mois, puis 1 an, et maintenant 3 ans. Et voilà, hein, ça va continuer. Et toi, Vie?
Pareil, j'ai eu une opportunité de 6 mois. Après, moi, j'avais choisi de venir en Côte d'Ivoire.
Ouais.
Je cherchais absolument un contrat ici.
Oui.
Et donc, je voulais tester dans une période assez courte, 6 mois, en me disant est-ce que ça me correspond ou pas.
D'accord. C'est vrai que moi, la Côte d'Ivoire, je replace les choses dans le contexte. Dans l'épisode précédent, j'ai toujours rêvé de dire cette phrase.
Non, je te jure.
Previously on Madame Attrape ton cœur. Bref. Dans l'épisode précédent, je critiquais beaucoup la phase panafricaine. Au final, c'est ça qui m'a beaucoup aidée dans la démarche de retour, on va dire, sur le continent. Parce qu'à la base, un de mes rêves, c'est visiter chaque pays d'Afrique. La Côte d'Ivoire était tout naturellement sur ma liste. En plus, il y a des similitudes avec le Cameroun. Donc l'idée, c'était de venir à terme. Mais c'est vrai que j'avais pas vraiment spécialement choisi ce pays-là pour débuter. J'ai commencé par le Ghana, grâce à la série An African City. Et c'est vrai qu'à l'époque aussi, j'écoutais beaucoup d'Azonto.
Et là, je suis en train de t'imaginer. Azonto.
Je voulais être au cœur de l'action et c'est vrai que j'ai kiffé, quoi. J'ai passé 3 mois de stage aussi là-bas. En 2015, et j'ai adoré. Après, ça a continué par le Burkina. Et je me suis dit, bon, t'as fait Ghana, Burkina, le pays voisin, c'est la Côte d'Ivoire. Donc ça va de soi, vas-y. Et c'est comme ça que j'ai trouvé un stage de 6 mois en Côte d'Ivoire. Voilà.
Ah, c'est marrant. Donc, t'étais déjà dans la région, en fait.
Ouais, j'étais déjà dans la région. Je suis, on va voir les voisins. Tranquille. Ouais.
Non, non, mais t'as raison. Après, ouais. Moi, c'était différent. Je m'ennuyais, en fait, à Paris.
D'accord.
Je bossais dans l'industrie textile et je me disais, bon, c'est sympa, hein, c'est glamour, les collections, les défilés. Et, en fait, tu fais ça tous les 6 mois. Donc, vraiment, c'était lassant.
D'accord.
Et moi, je voulais... je m'étais toujours dit que j'allais un jour m'installer. Bon, à la base, en Guinée-Bissau, mais finalement, pour des raisons personnelles, j'ai changé d'avis.
Ouais.
Et je me suis dit, ouais, la Côte d'Ivoire, ça bouge, c'est dynamique, il y a une croissance économique hyper intéressante, il y a les entrepreneurs, c'est une culture que je connais. Parce que je côtoyais beaucoup, moi, d'Ivoiriens qui me vendaient du rêve. Franchement, c'est des bons agents touristiques.
C'est vrai.
Ils te parlent de la nourriture, des soirées, des week-ends à la plage, ouais. De tout ce que tu peux faire au quotidien, des maïkis. Donc moi, ça me donnait envie en me disant, ah, c'est sûr, il y a une vie dehors, comme en Guinée-Bissau, ça c'est cool, moi j'aime bien ce genre de choses, quoi.
D'accord.
Donc 6 mois, c'était le test.
Et ouais, bah oui, j'ai demandé si t'avais validé, mais oui, t'es toujours là, donc oui, t'as validé.
Ben oui.
Oui, mais bon, t'as validé, mais c'était pas... Enfin, comment dire, t'as validé instantanément, c'était avec beaucoup de peine, comment ça s'est passé?
Non, bon, j'ai validé, oui.
Ouais.
Mais au bout de 3 mois, je m'étais dit que j'allais rentrer en France.
D'accord.
Parce que moi, je bataillais, on va dire, au quotidien, oui. Les 3 premiers mois. C'était une bataille parce que j'essayais de m'intégrer. Et j'avais pas forcément les codes et j'avais pas les outils pour vraiment m'intégrer comme moi je le voulais. Et c'est aussi lié, bah, comme on parlait dans l'épisode précédent, de je savais pas naviguer entre mon identité bissau-guinéenne et l'identité française.
D'accord.
C'est ce qui me peinait au quotidien. Mais je pense que je pourrais développer un peu plus après.
Ok, ça marche. Bon, on a 10 questions.
Ouais.
Sur le sujet Fast Life. Et bon, t'as déjà répondu à la première qui était, as-tu reçu des conseils de personnes qui t'ont poussé à venir en Côte d'Ivoire, ça s'est fait.
Et toi, t'as eu des conseils?
Non, je t'ai dit, moi j'ai choisi sur la carte.
Non, j'ai gagné. Tu sais, j'imagine, tu sais, comme ces gens dans les films qui tournent le globe. Je vais là.
Non. Enfin, c'est vrai, j'avais un pote ivoirien qui nous parlait beaucoup de la Côte d'Ivoire, de comment ça se passait et tout. Et c'est vrai que, enfin, comme j'ai dit, il y a un pays qui était sur ma liste. Donc ça, moi j'avais pas de préparation spéciale. J'allais voilà en mode apprentissage. Mmh. Pour moi, j'allais découvrir une nouvelle culture, un nouvel environnement, un nouveau mode de vie. Donc voilà, j'y suis allée. Bon, pas à l'aventure bien entendu, bien sûr que non, vu que j'ai trouvé un stage et je suis venue là.
Ok, top. Okay. Et la deuxième question, c'est qu'as-tu pensé du coût de la vie en Côte d'Ivoire quand t'es arrivée?
Ouais, c'est cher. Franchement, c'est cher. C'est cher d'autant plus que quand je suis revenue, enfin, pour moi, ma philosophie, c'était consommer local, tu vois.
Mm-hmm.
Consommer des produits faits localement, pour des raisons qui sont personnelles. Mais c'est cher. Le coût de la vie est cher. Le logement est cher.
Ouais.
Le logement est hyper cher. On se retrouve avec les mêmes prix qu'à Paris. Franchement, il y a moyen. Si vous voulez des maisons de 1 million d'euros, vous en trouvez. Enfin voilà, vous trouvez de tout. Vraiment.
1 million de francs, c'est vrai.
Non, 1 million d'euros aussi, meuf.
Ah, dans ce sens-là.
Ah oui,
okay.
Oui. Si, il y a de 1 million de francs. C'est pas que c'est rien, mais.
Tu vois, c'est cher aussi, hein.
Non, oui, c'est cher, mais bon. C'est la dernière fois, on parlait d'une maison à 500 millions, quoi. Donc,
ouais.
Il y a de quoi faire. Et toi?
Moi, je me disais, ouais, c'est une grande ville, donc ça doit être cher.
D'accord.
Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi cher en fait. Que ce soit le transport, la nourriture, les loisirs, le logement aussi.
Ouais.
C'est des prix de France en fait.
C'est ça.
Ouais. Donc à chaque fois j'échangeais avec mes potes qui me disaient alors tu dois peut-être économiser, etc. Et non. Je dépense autant que vous.
Exactement. Et surtout qu'en fait, je sais pas si pour toi c'est pareil. En fait, moi je fais pas attention à la conversion. Pour moi, 10 000, c'est 10 euros, tu vois. Dans la tête, en fait, c'est à quelques rapides, 10 000, 10 euros. En fait, non,
pas ça.
10 000, c'est 15 balles, tu vois. C'est pas pareil. Donc, du coup, bah, tu claques facilement des sous, en fait. Tu claques vraiment beaucoup plus.
Moi, je fais la conversion automatiquement, parce que quand je vivais en Turquie,
ouais.
Je faisais pas la conversion. Et je me disais, ah, j'ai trop d'argent, je dépensais à gogo, je dépensais beaucoup trop.
Ah,
donc
merde.
Je voulais pas me retrouver à reproduire en fait le même piège ici.
D'accord, donc t'as eu les bons réflexes. Tout ce qui est infrastructure, quand tu es arrivée, comment ça s'est passé?
Bah écoute, moi à Paris, on m'avait dit, donc c'était des Ivoiriens ou même des personnes qui avaient vécu en Côte d'Ivoire.
Ouais.
Tu vas voir, il y a des coupures d'électricité ou d'eau.
Mmh.
Assez quoi. Donc je m'étais préparée en me disant, bon, bah, allez, faut faire des réserves d'eau et faut avoir des bougies quoi.
Ouais. Des lampes tempêtes.
Ouais. J'étais en train de me dire, même, ça se trouve, faut que je m'achète un générateur et tout. Tu sais, comme dans An African City,
ouais,
ils ont.
Ouais. Ah, mais c'est, ça coûte une blinde ça.
Ouais, mais moi j'étais allée dans ce délire. D'accord. Ils l'ont dit, donc ouais, ça doit vrai. Être vrai. Et je suis arrivée. Non, dire que j'ai pas eu de coupure d'électricité, ce serait mentir.
Mm-hmm.
Mais c'était une heure, c'est rien dans une journée de 24 heures en fait, ouais, une coupure ouais. d'une heure. Et c'était rare, souvent c'était lié aussi à des travaux ou des choses comme ça.
Exactement.
Donc moi, niveau infrastructure, j'étais contente. Les transports, ça allait, le internet aussi. Par rapport à la Guinée-Bissau, pour moi, tout était mieux. Donc moi, j'étais trop contente, j'étais pas trop dépaysée.
Ouais.
Et toi?
Bah, moi, quand j'étais allée au Ghana en 2015, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de coupures d'électricité, mais pareil, il y avait des travaux. Les gens avaient des générateurs, ils avaient des réservoirs d'eau, donc il n'y avait pas de soucis. Et moi, quand je suis arrivée ici, j'ai eu aucun problème. Hein.
Mm.
Il n'y avait pas de... Franchement, comparé au Cameroun, avec les coupures d'électricité, je peux vous dire qu'ici, ça va. Il n'y a pas de... Même les coupures, franchement, il n'y a pas...
Non, non, c'est rare.
Non, ça dépend vraiment des quartiers. Ici, vous êtes dans un quartier aussi où c'est bizarre.
Ouais.
Votre immeuble est bizarre, ouais, là, vous allez avoir des problèmes, mais sinon, non.
Donc, finalement, comme on est venu ici pour le travail,
oui.
Est-ce que toi, tu t'es sentie intégrée dans ton travail et qu'est-ce qui t'a aidé en fait au quotidien?
Alors, comme je l'ai dit, moi je suis venue pour un stage. Donc, les 6 premiers mois, bah, c'était en mode stage, tu vois. Mmh. Pumpy Love, tout le monde m'aimait bien. La blanche noire arrivée, tout ça, tu vois. Et il y avait pas mal de personnes âgées, enfin, pas âgées, mais des gens qui avaient une ancienneté assez conséquente dans la boîte. En gros, qui me chaperonnaient, quoi. Ils avaient des 25, 30 ans dans la boîte.
Mm-hmm.
Pendant les 6 premiers mois, ça allait. Maintenant, quand je suis passée en contrat, là, c'est devenu autre chose. Tu vois, la petite stagiaire d'une compétition, là, les masques tombent.
Mm-hmm. Enfin,
donc, c'était assez tendu, mais j'ai quand même su trouver ma place. C'est pas facile de mettre une petite jeune à la tête pour, en gros, donner des ordres à des vieux, quoi. C'est compliqué.
Ouais, j'imagine. Mm. Et t'as pu t'appuyer sur des collègues, des mentors, ou même des gens de ta famille pour t'aider à naviguer?
Moi, mes collègues, j'ai une règle, mes collègues, c'est pas mes amis. Donc je me suis surtout appuyée sur ma mère, qui était mon coach de vie. Dès qu'il y a en fait, surtout au niveau des codes.
Mm-hmm.
Par exemple, s'il y a un décès dans le service, qu'est-ce que tu fais? En France, tu dis juste mes condoléances et ça passe. Mais en fait, selon la culture de l'entreprise, selon l'état d'esprit des gens... Il y a une petite quête, enfin, une petite collecte d'argent qui est faite pour soutenir la famille du défunt. Donc voilà, c'est surtout sur des questions de code que je faisais appel à ma mère.
Mm.
Bon, maman, il m'a présenté tel problème, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois donner de l'argent? Combien je donne? Etc. Tu vois.
Mm.
Parce que, bon, comme on le dit, on est les deux, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on est africaine, donc il faut savoir bien naviguer entre les deux. Et toi?
Moi, au début, c'était difficile parce que je suis arrivée. Je travaille dans l'entrepreneuriat et moi j'ai un contrat français, donc je suis arrivée avec une collègue française blanche.
Ouais.
Et donc du coup on était en duo, on était tout le temps sur le terrain à tout faire ensemble. Et moi les 3 premiers mois je trouvais pas ma place. Que ce soit en réunion avec des partenaires ou en séance de formation, donc avec les entrepreneurs.
Oui.
Moi je me sentais pas écoutée, ce que je disais n'avait pas de valeur. Et une fois on était en séance de formation. Donc toutes les deux avec notre accent parisien.
Oui.
Et moi je faisais en sorte aussi de plus articuler, de gommer un peu cet accent parisien, tu parles très vite et on comprend pas ce que tu racontes.
Mmh.
Et donc là, il y a une nana, moi j'appelais ma tanti parce que je les appelle les tantis, qui me dit « Ma fille, moi je comprends pas ce que tu parles, tu choco trop. »
Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire choco?
C'est vraiment quand tu parles avec l'accent de France quoi.
Ouais.
Et
mais pas que de France, hein. Même, je pense que même les gens qui viennent des États-Unis ont dit qu'ils choco, non?
Je sais pas.
Bon, ok.
Ouais, bref. T'as un accent de l'extérieur.
Voilà.
Ton accent n'est pas local. Et elle me dit ça, et là je me dis, mais l'autre, tu la comprends quoi? Elle me dit, oui, elle, je comprends mieux ce qu'elle dit.
Ouais.
Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte ça. Et là, je bouillonnais, j'avais juste envie d'arrêter le truc, de rentrer chez moi.
Ouais.
Et je fais une pause. Et là, je me dis, vas-y, ça me saoule. Et j'en parle à ma mère,
ouais,
qui me dit, ouais, mais t'es une toubab. T'es une toubab noire. Je fais, ouais, mais ça me dérange et tout. Et en fait, c'était tout le temps comme ça. Et pareil, on sortait du boulot une fois dans une rue. On se sépare avec ma collègue. Et il y a un mec qui vient me voir, qui me demande l'argent pour son transport. Donc, moi, je lui dis que j'ai pas d'argent, je continue ma route. Et en fait, il me suit. Et je lui dis, mais laisse-moi tranquille. Non, j'ai pas d'argent. Je commence à élever la voix, personne ne réagit autour, c'était une rue blindée.
Ouais.
Et en fait, je commence à parler de plus en plus fort, à l'humilier, et c'est là qu'il a arrêté. D'ailleurs, il m'a même dit, tu fais comme les colons, tu ne sauves pas ton frère. Non.
Sérieux ?
Ouais, 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 c'était violent ce qu'il m'a dit et tout.
Pourquoi t'as dit ça ?
Il m'a dit, oui, j'étais comme ce nègre de maison dans le système pendant. Parce que je ne partage pas. Parce que dans sa tête, ma collègue m'avait donné de l'argent en partant.
Ah, d'accord. Il fallait que tu partages.
Voilà. Alors qu'en fait, elle m'a juste fait une accolade.
Ah, ok.
Ouais. Voilà. Donc, le lendemain, on revient dans ce même endroit. Je suis avec ma collègue, encore une fois.
Mmh.
On se dit au revoir. Et là, le mec vient encore de nouveau nous voir. Et là, ma collègue dit juste, laisse-moi tranquille. Et tous les gens qui étaient autour sont arrivés. On dit, pourquoi t'embêtes la blanche? Laisse la blanche tranquille.
D'accord.
Et donc là, je me suis dit, donc, c'est encore un truc qui me dit, même si j'ai pas envie de le voir, que je suis pas pareil que ma collègue, donc il y a un truc qui va pas. Donc j'en parle aussi à d'autres amis que j'avais, c'était principalement des Français blancs, qui pour eux, moi en fait, c'était plus simple pour moi de m'intégrer en Côte d'Ivoire parce que j'avais la couleur locale.
Oui.
Ils m'ont dit, ah mais pour toi c'est d'être plus simple. Ils me disaient tout le temps que j'avais pas à me plaindre et tout, alors qu'on les appelait le blanc, la blanche, bref. Et là je suis au bout de ma vie, ma mère je lui explique, elle me rassure, mon père me rassure, et là, ma mère me dit, mais il n'y a pas une personne comme toi en Côte d'Ivoire à qui tu pourrais en parler.
Mmh.
Et je me souviens que j'avais rencontré une franco-sénégalaise, donc elle a juste la double culture. Hein.
Ouais.
Elle n'est pas.
Métis.
Et là, elle me dit, il faut que tu arrêtes ce que tu fais. Je commence à me dire, tu n'es pas que française.
Ouais.
Je dis, ouais, mais je ne peux pas dire que je suis bissau-guinéenne comme ça, parler à outrance, tu vois. Moi, j'ai grandi en France, j'ai jamais vécu en Guinée-Bissau. Elle me dit, non, mais tu transpires la culture bissau-guinéenne aussi dans certains trucs. T'as les codes par rapport au respect aux vieux.
Ouais.
Ouais, quand il y avait des cours de lien, c'est toujours comme, qu'est-ce que je fais et tout. Et elle me dit, il faut que tu navigues entre les deux.
Mmh.
Et aussi, il faut que tu racontes ce que tu vis, d'arrêter de le garder pour toi, en fait.
Donc, c'est
Ouais, et à partir de là, je commençais à en parler à mes potes ivoiriens qui, eux, étaient aussi choqués de savoir qu'il y avait ce genre de comportement.
Mmh.
Et moi, j'ai commencé à mieux naviguer, et donc les formations, ça se passait vraiment mieux. Elle m'appelait même ma fille. Ah, mais franchement, c'était cool. Après, on s'appelait les week-ends, je passais du temps à me passer leurs enfants au téléphone et tout, ça, c'était vraiment cool. Et les réunions, les rencontres avec des partenaires, du coup, c'est moi qui commençais avec le principe des nouvelles du jour.
Ouais.
Quand je maîtrisais ce truc, c'était comme ça. Ouais. Donc, j'ai fini par trouver ma place, et là, je me suis dit, ah, c'est trop bien. J'ai enfin réussi à équilibrer ce côté-là, parce que le côté enjaillement... les voyages, je fais trop de voyages.
Ouais.
À ce moment-là, moi, les trois premiers mois, je faisais que voyages. Je me disais, ah, ce pays est trop, trop beau.
Ouais.
Donc, du coup, j'ai réussi à rééquilibrer et c'était bien.
Ah, c'est cool ça. Mmh. Ouais, bon, la preuve, t'es toujours ici, donc c'est plutôt bien passé.
Ouais.
D'accord. Et alors, au niveau des rencontres, est-ce que t'as réussi à te faire des amis facilement ici ?
Ah ouais, au début, j'appréhendais parce que les autres fois où j'étais à l'étranger, en Espagne ou en Turquie, j'étais dans un contexte d'études.
Oui.
Donc Erasmus, t'es avec plein de gens tout le temps.
C'est ça.
Et là, quand je venais pour le boulot, je me suis dit, où est-ce que je vais rencontrer des gens ? Et moi, j'ai eu de la chance.
Mm-hmm.
Je suis arrivée un mercredi, un vendredi, j'étais en week-end à Jacquesville, j'ai rencontré la part de mes potes là-bas.
D'accord.
Et après, je participais à pas mal d'événements où je rencontrais les amis d'amis. Donc je me suis fait un réseau assez vaste entre des amis français, des amis ivoiriens... Les gens que j'appelle de la diaspora ou les expats de la sous-région, c'était génial.
D'accord.
Ouais.
Okay.
Et toi ?
Bon, les 6 premiers mois, c'est vrai, je m'étais fait un petit cercle. Mais moi, par contre, j'ai dû changer de cercle d'amis plusieurs fois avant de pouvoir trouver ma place, tu vois. Les 6 premiers mois, je le raconterai dans un autre épisode. Enfin, voilà. C'est vrai que bon, je connaissais, j'avais changé de groupe de potes, j'étais plus en contact avec les autres, donc il fallait se recréer un nouveau réseau. Et je me souviens que j'arrive en soirée. C'était une soirée de VIE, donc des gens qui sont venus par un contrat de courte durée en Côte d'Ivoire. Et j'essaye voilà, de faire la conversation. Je me souviens, je m'approche d'un groupe de personnes. Je dis bonjour. Le gars se retourne, il me regarde de haut en bas, il me tourne le dos.
On dirait les rencontres à Paris.
Putain, c'est un truc de ouf. Ça m'a refroidi direct. Mais on vous racontera plus tard le contexte, pourquoi du coup, tu vois. Mais c'est vrai que c'était violent la première fois. Enfin bref, donc du coup, je suis restée dans mon coin pendant quelques temps. Après, j'ai rencontré un autre groupe de potes, on a commencé à faire la fête, sortir et tout machin. Et après, ainsi de suite, tu vois. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était compliqué. Mais maintenant, j'ai trouvé ma place, quoi. Ouais. Mais c'est voilà, c'est, on essaye, si ça marche pas, voilà, on se sépare, on continue, quoi.
Il n'y a pas de recette miracle.
Il n'y a pas de recette miracle, voilà.
Tu sors, tu rencontres des gens, on te présente, ça match pas.
On peut, enfin c'est vraiment le loto, hein. On peut rencontrer de bonnes personnes dès le départ. Mmh. Comme on a un pote qui est venu ici à la base pour une mission de 2 semaines. Il a fait des road trips pas possibles, il a prolongé d'une semaine.
Ouais.
Après il nous a suivis au Ghana, enfin bref voilà. Donc il suffit de rencontrer les bonnes personnes sans se vanter, n'est-ce pas?
Ouais, non. Voilà. Et tu sais que ça m'étonnerait pas, hein. Si demain il a pas lui dit je viens m'installer en Côte d'Ivoire, je serais pas surprise.
Franchement, ouais. Et ouais, on avait fait pas mal de trucs. Mm.
Et finalement, vu que, bon, le travail c'est important, hein, mais il y a d'autres choses aussi. Hein. Mm. Est-ce que toi, tes activités sur ton temps libre, tes loisirs, étaient un peu, en concordance avec ce que t'aimes faire en général?
Ah oui, moi j'aime faire la fête, hein, donc... J'aime manger. Non mais ouais, non franchement ouais, on déconne bien, les gens sont cool. Il y a de en fait ici, enfin c'est vraiment la vibe que moi je capte. Mmh. Les gens sont friands de nouveautés. Mmh. Donc, dès que t'as un nouvel événement et tout, t'auras plein de monde de dehors, t'es facilement au courant de tout ce qui se passe de nouveau et d'attractif pour les jeunes ici. Donc franchement ouais, moi je m'éclate ici. Que ce soit pour les plages, que ce soit pour les sorties, que ce soit pour les restaurants, on trouve de tout. Tu peux manger de tout. De plats ivoiriens, plats camerounais, plats vietnamiens, tout, absolument tout à Abidjan. Vraiment.
T'avoue que vietnamien, je me tue à ça.
Ouais, non, mais t'as de tout. Tu peux tout trouver. Alsacien, même, il y a des gens qui. Il y a une fête. Ouais.
Tu peux même manger de la raclette.
Ouais. Mmh. Donc voilà. Mmh. Et toi?
Ouais, moi, bon. Je vais pas redire la fête parce que. En fait, c'est même un blasphème. Je suis bisexuelle, même faire enfin, l'histoire. Donc, le bail commence à 18h, on finit à 20h le lendemain, c'est pas un problème.
Ouais.
Mais moi, j'ai. Ma soif de voyage, j'ai pu l'utiliser ici. C'était vraiment cool parce que bon, j'ai fait un peu le tour de la Côte d'Ivoire.
Ouais.
On mettra des photos sur les réseaux sociaux.
Oui.
J'ai pu aussi. Tout ce qui est art, moi, j'adore. Donc, tu vois, faire des expos, regarder des artisans travailler, que ce soit les sculptures, le bois.
Ça, c'est vrai.
Le bronze et tout, franchement, il y a de quoi faire. Moi, je m'ennuie jamais.
Et c'est vrai que mine de rien aussi, on a été vachement en contact avec des personnes très créatives. Mmh. Et ça inspire, quoi, des personnes hyper inspirantes qui partent d'un post Instagram et qui deviennent une sensation du moment. Mmh. Enfin, voilà, on a rencontré des personnes comme ça qui sont parties d'un délire... de faire un apéro en plein air devant une boutique et ça devient un festival, le premier festival de Côte d'Ivoire. Donc tout ça, ça donne envie, quoi. Ça stimule les gens, il n'y a que de bonnes vibes. Franchement, on rencontre des gens vraiment top.
Ouais, vraiment une bonne vibe. Et j'ai l'impression que tu vois ici, si tu as envie de faire quelque chose, bah essaye. Hein.
Exactement. Mm. Tu ne peux que. Enfin, je sais pas, ça, tu peux rien, t'es cassé la gueule en fait. C'est pas grave, tu vois, t'essayes. Si ça prend, il suffit que tu aies une bonne idée, que ça soit bien entendu que ça réponde aux besoins sur place, pour pas importer un concept voilà, qui n'a rien à voir ici. Et si ça prend, quoi. Les gens sont friands de nouveautés, les gens sont friands de tout ce qui est divertissement. Quoi.
C'est, ouais, c'est là où j'étais un peu frustrée dans le sens où bon, je fais des études de business. Hein,
ouais.
Et le comportement du consommateur ivoirien, ça a le mérite d'être étudié. Franchement, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est vachement intéressant.
Dans quel sens?
Dans le sens où les gens adorent la nouveauté, essayer.
Ouais.
Ils sont très prêts à faire des feedbacks.
Exactement, ouais.
Ouais. Et en plus, ils font des feedbacks constructifs. Hein.
Surtout sur les réseaux sociaux et tout, sur Instagram, Twitter et tout. Voilà, si vous faites un truc et ça marche bien, vous êtes sûr que ça sera inondé des réseaux sociaux.
Ouais, ça c'est top. Après, sur un autre volet un peu plus sérieux.
Ouais.
C'est vrai.
Sérieux, le divertissement, c'est sérieux aussi. C'est
un oui. Business, quand même. Ouais, ouais. Non, mais je parle de ma question suivante.
Ah.
Le divertissement, c'est hyper sérieux. Hein.
Attends.
Quand même. Attends. On est né pour danser.
N'importe quoi, toi.
Si, si, si. Mon oncle dit, danser, c'est la joie.
Et le bâtard.
Voilà.
Le bâtard. Donc,
c'est important.
Ok.
Et ouais, parce que souvent, tu sais, quand les gens partent à l'étranger, se pose toujours la question de savoir comment ça va être sur le plan de la santé.
Ouais.
Donc, toi, qu'est-ce que t'en penses ou qu'est-ce que t'as vu, en fait, ici, le système de santé ou le rapport même à la santé?
Après, moi, je ne maîtrise pas du tout le système de santé ivoirien. C'est vrai que, vu que je suis venue en stage, c'était pris en charge par la boîte. D'après ce que j'ai vu, en tout cas, dans ma boîte, c'est la boîte prend en charge pas mal de choses. La santé coûte cher, je trouve. Moi, en tout cas, dans mon cas, en tant qu'expatriée, bah, il faut avancer les frais et se faire rembourser plus tard. J'ai vivement conseillé de souscrire à des assurances, des mutuelles et tout. Ça coûte cher quand même, je trouve. Tu trouves pas?
Si, si, c'est hyper cher. Après, donc, quand t'es salarié, tu peux avoir l'opportunité d'avoir ton entreprise qui s'en occupe.
C'est ça.
Après, faites ça dans le secteur formel.
Ouais.
Comme toi, moi, je maîtrise pas du tout le système. Je sais que quand je suis tombée malade, j'ai su où me rendre et comment gérer les choses. Mais c'est pas facile.
Non, mais bon, après, il faut prendre des assurances, quoi. Faut se prendre en charge. Il y a la CFE qui fonctionne bien. Il y a d'autres mutuelles.
Ouais, t'as des mutuelles aussi en Côte d'Ivoire.
Ouais, ouais, qui marchent très bien, quoi.
Et après, tu peux même rajouter une option d'être prise en charge quand t'es à l'étranger.
Exactement.
Donc, dans mon cas, parfois, en France.
Au niveau de la sécurité, qu'est-ce que tu dirais? La sécurité à Abidjan.
Moi, je viens de Paris. Donc,
arrête. Allez.
Franchement,
honnêtement, quand tu viens de Paris.
Je viens de Paris, donc Paris, franchement, pour moi, c'est pas une vie safe.
Voilà. C'est ce que
donc,
je veux dire.
Abidjan, pour moi, c'est plus safe que Paris. Je suis désolée.
C'est pour ça que j'ai dit stop, t'arrêtes direct.
Paris. C'est mon point de vue.
Ah, c'est chaud, ouais.
Donc, moi, genre, je suis plus à l'aise ici de marcher dans la rue que de marcher à Paris,
ouais,
en fait.
Comparativement, ouais. Franchement, ouais. Surtout quand t'es une femme, à Paris, c'est chaud. À chaque fois, on en parle, sortie de boîte et tout, c'est chaud, c'est compliqué.
Et même la logistique, en fait, de tes sorties nocturnes à Paris, c'est compliqué. Alors qu'ici, bon, bah, tu sors, tu sais que t'as des taxis ou t'as des potes qui vont te déposer. Donc, c'est pas pareil. Après, il y a des quartiers, bien sûr, comme dans toute ville, il y a des quartiers où il faut faire attention plus que d'autres, quoi. Mais moi j'ai pas eu de problème sécuritaire ici.
Bah moi non plus. Enfin, ouais, c'est quand même assez safe.
Après je pense au niveau de la sécurité, c'est chacun son expérience.
Exactement.
Après comme toute grande ville,
ouais,
faut faire attention.
Voilà. Est-ce que tu es familière avec le terme y a pas monnaie?
C'est quand même une musique. Hey, est-ce qu'il y a une musique comme ça d'ailleurs?
Ah je sais pas, bonne question.
On pourrait faire un son de ouf.
Tranquille. Non, faut qu'on regarde, y a pas monnaie.
Ouais.
Est-ce que tu peux expliquer le concept de y a pas monnaie?
Donc, en Côte d'Ivoire, donc, quand tu vas faire des courses dans à la pharmacie ou bien tu vas acheter des fruits ou ton taxi, peu importe, tu vas attendre un billet.
Ouais.
La personne te regarde et te dit, il n'y a pas monnaie. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas le change à te rendre.
Exactement.
Et donc là, tu as deux options. C'est soit tu vas toi-même chercher ta monnaie, soit tu ne fais pas la transaction.
Ou tu prends des trucs en plus, tu as trois options.
Ouais, c'est vrai.
Tu prends des trucs en plus aussi. Ouais, ça, moi... Franchement, personnellement, de tous les pays que j'ai fait, c'est la première fois que je vois ça.
Ouais.
C'est vraiment très propre à la Côte d'Ivoire. Je sais pas ce qui se passe. Je ne rentrerai pas dans les détails économiques de cette histoire. Il doit y avoir des enjeux quelque part, on sait peut-être pas. Mais la monnaie, c'est un vrai délire. Comme tu le disais, tu as 10 000, tu es pauvre, tu vois.
Ouais, mais ça, je l'ai appris très vite. Hein. Ouais. C'était quoi? C'était mes premiers mois, en fait, ici. Donc, je suis là, j'ai mon billet de 10 000, je suis trop contente. J'étais à... Donc à Cocody, à Mermoz, et j'allais à Blokos, ce qui fait qu'en taxi, c'est pas cher. Si tu es en taxi compteur, c'est 500 francs, et si tu es en... Bon, je dirais pas de euro, parce que j'ai pas le dire, mais voilà, dans le véhicule collectif, c'est je crois 200 francs, truc comme ça. Donc moi, je suis là avec mes 10 000, et là, je me rends compte qu'il y a un problème, tu vois. Je commence à poser la question, droite-gauche, on me regarde, il n'y a pas monnaie. Et je vais chez le boutiquier, demande si tu vas chez le boutiquier, t'achètes un truc, ou au pire tu lui demandes s'il te plaît, fais-moi un peu de monnaie. Il m'a dit non. Et là, je suis là, je commence à marcher, il faisait hyper chaud. Et j'arrive au bout de la rue. Enfin, j'ai fait mon trajet jusqu'à Blocos. Mmh. Et franchement, c'est 20 minutes, hein, voire plus. Sous le soleil ardent du mois de mars, peut-être avril même.
C'est chaud.
Tu transpires. Franchement, ouais, c'était horrible. Et j'arrive, la tantie, donc une nana qui me connaissait, elle m'a dit, ma fille, quoi. Donc je lui dis, tantie, il n'y a pas monnaie. Mmh. Et je lui montre mon billet de 10 000. Et là, elle rigole. Et donc, elle appelle tout le monde autour d'elle. Hein.
Ouais.
Ils viennent et ils commencent à m'expliquer comment faire en sorte de toujours avoir de la monnaie. Et là, j'ai juste retenu une phrase, moi, dans ma tête, c'était « Donc, tu as 10 000, si tu n'as pas de petite monnaie, c'est que tu es pauvre. »
Ouais, c'est dead. Du coup, même, on sortit, même quand on va au restaurant et tout, tout le monde se bat pour avoir de la monnaie, quoi, parce que c'est chaud.
C'est trop chaud.
Ouais, donc voilà, c'est la petite anecdote liée au pays qui est vraiment très très propre à la Côte d'Ivoire, moi je trouve. C'est vraiment l'une des choses qui m'a dit waouh, c'est impressionnant. Mais bon, voilà, on fait avec, on vit bien quoi.
Ouais, non, c'est vrai que même tous ceux qui sont ailleurs et qui viennent.
Tout le monde est surpris parce que je suis désolée. Enfin, ouais, voilà.
Donc si vous avez la réponse à ce mystère. Bien
non, franchement, je veux même pas reconnaître ça. C'est un truc qui me dépasse, je suis certaine.
Quand je regarde mon porte-monnaie, j'ai genre plein de petites coupures, je suis en train de danser. Hey
et mais c'est trop marrant parce que quand les gens ont beaucoup de pièces, on dit c'est toi qui as toute la monnaie du pays. Donc voilà. Sinon, pour terminer ce court épisode, parce qu'au final, c'est pour donner des tips hein,
pour
un séjour à Babi. Est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui souhaiteraient s'installer en Côte d'Ivoire?
Pour moi, il n'y a pas de recette miracle. C'est chacun son expérience. Mm. Donc, si tu veux, tu trouves un petit contrat avant de venir pour tester, ou bien tu viens en vacances, ou bien tu prends juste ton sac à dos et tu débarques. Mm. Mais le but, c'est vraiment d'être adaptable.
Exactement.
Ton mindset de l'étranger, là, faut oublier.
Ouais.
Franchement.
Jeter quelque part.
Tu mets ça sur ton tapis. C'est vraiment ça.
Dès que tu arrives à l'aéroport, tu le laisses.
Ouais.
Tu fais ton truc.
De toute façon, même à l'aéroport, on va te le dire, laisse ça.
Tu laisses ça. Parce que voilà, faut être hyper ouvert d'esprit. Il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Les gens ne sont pas pareils. Mm. Les ethnies sont différents. Les modes de vie ne sont pas pareils.
Ouais.
Donc voilà, il faut venir et être prêt à apprendre.
C'est clair, c'est ça.
C'est très important d'être prêt
apprendre.
À apprendre.
Ouais.
Donc voilà.
Bon, passons au kiff du moment.
Yes.
Alors, Nikki, qu'est-ce que tu nous racontes?
Ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est regarder les success stories sur Canal. Tu sais, les entrepreneurs qui ont développé pas mal de trucs et tout pour le continent et tout. J'aime beaucoup ça, c'est assez inspirant, tu vois. Et j'ai pensé à toi d'ailleurs en regardant ces... Bon, ça, c'est pas sur Canal, c'était sur TV5. Il y a une nana, j'ai oublié son nom.
C'est pas grave.
Qui parlait d'afroféminisme. Et elle disait qu'elle se positionnait pas en tant qu'afroféministe parce que pour elle, c'était une position politique. Et que, en fait, c'était propice dans le contexte français. Parce que dans le contexte français, il faut vraiment s'affirmer en tant que femme noire et en tant que femme, tu vois.
Mm-hmm.
Et donc, elle n'utiliserait pas ce terme-là. Et du coup, j'ai pensé à toi. Et puis, j'ai dit, il faut absolument que je retrouve ces ouvrages pour voir ce que toi, tu en penses. Donc, voilà.
Ah, bah, si tu retrouves, je veux bien dire.
Ouais, je vais retrouver, t'inquiète. Au-delà de ça, au vu de l'actualité, je vais pas vous mentir que je me pose beaucoup, beaucoup de questions sur moi, mon parcours personnel, et surtout personnel. Je me demande si la voie que j'ai empruntée est la bonne ou pas. Tu vois, je me pose beaucoup de questions par rapport au monde qui m'entoure, parce que là, on vit une crise sanitaire mondiale, et ça permet un peu de relativiser sur ce qui est important ou pas. Donc là, je sais pas pourquoi, je suis vraiment dans une phase de questionnement existentiel. Et voilà, je tenais à faire partager ça.
Je comprends. On est amené à faire ça.
Ouais. Est-ce qu'on est vraiment amené... Ouais, bah oui. Au final, est-ce que c'est... comment dire? Est-ce qu'on est vraiment amené à faire ça? Non. Enfin, je pense pas que tout le monde...
Je pense chacun sa manière de faire, mais tu vois, il y a des gens qui se reconnectent à la religion, qui passent du temps en famille, ils sont chez eux avec leurs pensées.
Ouais.
Donc tu penses. Après, tu choisis de, si tu veux, tu te questionnes sur ta vie ou pas.
Mmh. D'accord. Mmh. Et toi, ton kiff du moment?
Mon kiff du moment, c'est un livre qui s'appelle Sapiens. de Yuval Noah Harari.
Tu l'as acheté physiquement ou tu l'as téléchargé?
Non, j'ai le bouquin.
Ah, cool.
Ouais. Donc, du coup, c'est il parle, en fait, de l'histoire de l'humanité.
Ouais.
Donc, ça commence avec l'arrivée de l'espèce humaine parmi toute cette espèce animale et des conséquences que ça a eues. Bon, on a détruit beaucoup d'animaux quand on est arrivé. Et même entre nous, tu vois, parce que... Il y a des espèces qui ont disparu, humaines qui ont disparu quand l'Homo sapiens est arrivé aussi sur Terre. Il y a pas mal de théories pour savoir est-ce que c'était une extinction naturelle ou bien c'était...
Du fait de
l'Homo sapiens qui avait massacré ou bien transmis des maladies aux autres.
D'accord.
Et puis après, moi, donc, j'ai pas fini le bouquin. J'ai lu la moitié. Et je me suis arrêtée à cause d'une partie. Parce que, donc, du coup, j'ai lu ce qui est la deuxième partie du livre, c'est la révolution agricole.
Ouais.
Et donc, il t'explique comment donc, l'homme, au début, allait chasser, était donc nomade et vivait de pas mal de cultures différentes, à comment il est devenu sédentaire, focalisé sur le blé. Et en fait, l'arrivée du blé, c'est ce qui a donné vie à notre société actuelle. Parce que du coup, ouais, l'être humain s'est focalisé. Donc plutôt l'Homo sapiens s'est focalisé sur la culture du blé.
Ouais.
Il est resté sur place et du coup, il ne faisait que travailler pour le blé. Le blé est devenu son aliment principal, alors que c'est pas l'aliment le plus nourrissant.
Ouais.
Et donc du coup, ça a engendré aussi donc, toute cette forme un peu de vol... de capitalisme en fait autour du blé parce qu'il travaille de plus en plus à accumuler ce blé chez lui, donc avec les greniers, et à faire des stocks, à les échanger, et donc c'est l'avènement en fait un peu de, je dirais, du système capitaliste. Et en fait, quand j'ai lu ça avec toutes les conséquences que ça a eu, je me suis dit bon, je vais faire une pause dans ce livre parce que en fait c'était une résonance avec ce qui se passe à l'heure actuelle, parce qu'il disait que ok, on a le blé, donc ça faisait que les gens pouvaient se nourrir.
Ouais.
Donc, qui dit sédentaire dit on fait plus d'enfants aussi pour nous aider dans les champs du blé. Sauf que t'as plus de bouches à nourrir, donc tu te rends dans ton cercle vicieux.
Ouais.
Et ces gens-là, ils sont nourris, mais tu te développes, mais ils sont pas en meilleure santé. Et c'est là où tu commences à développer aussi d'autres maladies. Donc, tu fais des êtres humains qui sont pas forcément plus solides comparé à avant. Bah, je me suis dit, bon, on va faire une pause.
Bah, tu nous diras la fin, comment ça se passe, quoi.
Ouais, la suite, elle est un peu plus dure. Hein. C'est vraiment le système capitaliste.
Ouais, bah, il faut s'accrocher.
Ouais, mais hyper intéressant. Vraiment, c'est... Alors, je suis pas végétarienne.
Ouais.
Et je pense pas y mettre. J'aime la viande, j'assume.
Moi, je pense qu'à terme, je serai dans mes vieux jours.
Mais moi, je diminue ma consommation, je suis prête à le faire.
Ouais.
Et en lisant ce livre, il y a un passage justement sur les atrocités qu'on fait aux animaux. Ça pour notamment le lait.
Ouais.
Et là, je te jure, quand j'ai lu ce passage, pendant une semaine... J'ai pas bu de lait, j'ai pas mangé de viande. Et j'étais en mode, ah, c'est chaud.
Ah putain, on parle pas du lait parce que.
Ouais.
Moi, c'est mal drôle, moi.
Ouais.
Ah oui, dans le kiwi du moment aussi, ça c'est les recommandations d'un pote. Je me suis intéressée à l'ikigai, qui est une méthode japonaise pour trouver sa mission de vie. Donc, vu que je suis en plein questionnement, voilà, je teste tout ce qui est méthode. On verra bien ce que ça donne, je vous dirai. Donc voilà. Bon, c'était nous
sur Madame Attrape ton cœur.
Merci de nous avoir écoutés. On espère que l'épisode vous a plu.
N'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux pour nous donner la force, poser des questions, donner votre avis et commenter.
On essaiera de vous répondre au prochain épisode.
Les liens sont disponibles dans la bio.
Prenez soin de vous, de vos proches et aimez-vous.
Salut!